Voilà, au mois de septembre, quand nous réfléchissions avec le conseil sur l'année nouvelle, je les ai amenés à considérer un objectif pour notre année 2014-2015 ensemble. Cet objectif étant de faire de nous non pas des auditeurs, il y en a qui se souviennent de ça ? On l'avait traité le jour de la rentrée, mais des acteurs. Alors un acteur, attention, quand on met un acteur, c'est pas quelqu'un qui joue un rôle de ce qu'il n'est pas. Quand j'entends acteur, j'entends quelqu'un qui met en pratique ce qu'il est. Donc s'il y en a qui se disent, si c'est jouer un rôle, je sais faire. Donc d'auditeur, ça veut dire quelqu'un qui entend la parole de Dieu à être quelqu'un qui pratique la parole de Dieu, qui la vit. Juste avant de partir, nous avons eu une journée de célébration. Et un gros paquet était là, l'après-midi, avec nous, pour partager le repas et partager le moment l'après-midi. Et j'ai posé une question. Est-ce que vous vous rappelez de cette question ? Ceux qui étaient là, il y en a qui disent, oh, je ne sais pas si j'étais vraiment là. Nous sommes sauvés. Pourquoi ? Oui, la question c'était pourquoi ? Pourquoi ? Et la réponse qui a été très brièvement amenée, c'est pour servir. Servir Dieu. J'imprime ça parce qu'il y en a peut-être qui vont penser, tiens, Jean-Claude, il a pris un coup de chaud là-bas en Iowa, il faisait moins 12, ça y a gelé le cerveau. Ce message n'est pas né de mon temps en Iowa, mais il est ma réflexion depuis plusieurs mois. Nous sommes des auditeurs, mais nous devons être des acteurs dans le royaume de notre Dieu. Des gens qui n'hésitent pas à proclamer la parole de Dieu, qui n'hésitent pas à la montrer, cette parole de Dieu, comme agissante dans notre vie. Et ce matin, j'aimerais nous proposer un programme d'affermissement. Quand je dis programme d'affermissement, ça veut dire que nous avons besoin, les uns et les autres, ensemble, d'être affermis, donc d'être un peu plus stabilisés dans notre foi, pour marcher digne, dit l'Épître aux Éphésiens, de la vocation à laquelle Dieu nous a appelés. Et j'ai choisi comme base ce chapitre 24 de l'Évangile de Luc. Vous vous rappelez le chapitre 24 du chapitre de l'Évangile de Luc ? Ce sont les disciples de Jésus-Christ. Ce sont ces disciples qui sont désemparés. Vous vous rappelez de ça ? Les disciples d'Emmaüs. Jésus est mort, Jésus a été arrêté, c'est la fin de tout. Luc 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, qu'il entra dans sa gloire, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ses disciples avaient besoin d'être affermis, d'être renouvelé, de comprendre enfin l'Écriture de la bonne façon. Et nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes disciples, qui nous disons disciples de Christ, on a besoin de cet affermissement. Parce que nous ne connaissons pas toutes choses. Parce que ça va nous prendre notre vie entière sur cette terre. Le temps que Dieu va nous donner pour connaître le Christ de la manière dont il est. Pour apprendre de lui. qui il est et comment il peut agir dans notre vie. Pour ça que ce matin, j'aimerais rentrer dans ce projet de programme d'affermissement. Programme que je vais essayer de dérouler avec vous. Paul a dit, quand il a reçu l'appel de Dieu, qu'il avait une double tâche. On le lit dans Éphésiens au chapitre 3. On va partager ce matin pas mal de textes. Alors, ils sont affichés là, mais je vois qu'ils ne sont pas super grands. Éphésiens 3, 8. Voilà ce que Paul dit. Il dit, à moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux non-juifs comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière par toute la réalisation du mystère caché de tous les temps de Dieu, le Créateur de tout, afin que la sagesse de Dieu dans toute sa grande diversité soit maintenant portée par l'Église. Waouh ! D'annoncer la bonne nouvelle et de rappeler pourquoi Dieu a créé l'Église. Parce que l'Église, c'est ce que Dieu a choisi pour porter la vérité aux autorités dans les lieux célestes. Waouh ! Dieu veut montrer par l'Église, c'est l'ensemble des personnes qui ont accepté Jésus-Christ. C'est ça l'Église. Et il veut que cette Église, son administration, son fonctionnement témoigne de la réalité de Christ. Double tâche. Et c'est la tâche qui est attribuée à chaque serviteur de Dieu. Une double tâche. D'un côté, annoncer l'évangile. De l'autre côté, affermir avec cet évangile. Montrer à quoi ça sert. Nous avons cette double tâche ici. D'un côté, annoncer, ne pas oublier. D'annoncer la bonne nouvelle. D'un autre côté, affermir ceux qui reçoivent l'évangile et qui se posent des questions. Comment vivre cet évangile? Comment le mettre en pratique dans notre vie? Dans la première épître aux Timothée, au chapitre 3, verset 14, dans une de ses dernières lettres, c'est pas la dernière, dans une de ses dernières lettres, Paul écrit à son serviteur, à son étudiant, à son disciple, et il dit, je t'écris cela avec l'espoir que je viendrai bientôt te voir. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il faut le reconnaître, le mystère de la piété est grand, il s'est manifesté dans la chair, il a été justifié dans l'esprit, il est apparu aux anges, il a été proclamé parmi les nations, il a été cru dans le monde, il a été enlevé dans la gloire. Voilà, Jésus-Christ, la proclamation. Il a été manifesté dans la chair, il a été justifié par l'esprit, il est apparu aux anges, il a été proclamé parmi les nations, il a été cru dans le monde. Il a été enlevé dans la gloire. Et on pourrait y rajouter une ligne et il reviendra nous chercher. Le mystère de Jésus-Christ. Est-ce que c'est un mystère toujours? Est-ce que de découvrir d'un seul coup, que l'Église, nous, vous, moi, tous ensemble, nous portons un témoignage qui est vu du ciel aux autorités célestes pour témoigner de Jésus-Christ. Et que non seulement nous en témoignons, mais quelque part, Dieu nous a donné le code de conduite à l'intérieur de cette Église, non pas dans les murs, mais entre nous. Et que cette Église est la colonne. La colonne, c'est celle qui retient, qui empêche que tout s'écroule. Il y a un architecte qui est venu il y a quelques semaines nous voir, parce qu'on doit faire des modifications dans ce bâtiment par rapport aux nouvelles lois françaises. Et je lui dis, oh, on a l'idée d'agrandir les toilettes pour que les gens qui ont des difficultés puissent s'asseoir. Il me dit, c'est une bonne idée, sauf que si on touche le mur là, tout s'effondre. C'est bien à savoir, hein, avant de vouloir y toucher. Eh bien, mes amis, la colonne de la vérité, c'est ça. Dieu nous a choisis pour que nous empêchions tout de s'écrouler. Mais quelque part au monde de savoir que Jésus-Christ est la vérité. Qu'il est le seul moyen par lequel nous puissions être sauvés. Qu'il est le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Waouh ! C'est pas n'importe quoi l'Église, non ? C'est l'œuvre d'art à la réalisation grandiose de Dieu. C'est un joyau précieux dans un écrin fragile. Imaginez que vous, messieurs, un jour, vous vouliez offrir un diamant à votre femme. Je leur donne des idées. Un beau diamant. Et puis vous dites, mais dans quoi je vais le mettre cette... Donc la dame dans la boutique, en principe, elle va vous proposer un bel écrin. Vous dites, non, j'ai un vieux mouchoir dans ma poche, là. Je vais le mettre là-dedans, puis je vais lui donner. Je ne sais pas si votre femme, elle sera très contente. Enfin, elle sera contente quand elle verra, quand elle aura enlevé le mouchoir, je présume. Mais quand même, elle va vous regarder, elle va dire, tu peux pas me présenter ça dans un truc un peu plus joli. Ben, l'Église, c'est ça. L'Église, c'est un joyau, Christ, dans un écrin de papier. Nous, les hommes que Dieu a choisis. Mais qui avons une valeur tellement précieuse pour lui, qu'il est mort pour ça. Mes amis, voilà la double tâche. Faire connaître l'Évangile, apprendre comment se conduire, comment appliquer l'Évangile dans notre vie. Affermir. Mais vous dites peut-être, j'ai pas besoin d'être affermi. Romains chapitre 1, verset 11. Car je souhaite vivement vous voir pour vous communiquer quelques dons de la grâce, quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Ah ? Paul voulait voir ces Romains pour les affermir. Chapitre plus loin dans sa lettre, à celui qui a le pouvoir de vous affermir selon ma bonne nouvelle de la proclamation de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère qui était tenu secret depuis toujours. Christ est le seul qui peut nous affermir. C'est par lui, en lui, que nous sommes affermis. Et Paul, il dit là bien, selon ma bonne nouvelle, la nouvelle que je vous ai annoncée, la nouvelle que j'ai proclamée, que vous avez acceptée, auquel vous avez répondu par un oui franc et massif. C'est cette nouvelle-là qui va vous affermir. Mais on a besoin d'en discuter. On a besoin d'apprendre. On a besoin de découvrir. Alors ça veut dire quoi affermir ? Rendre quelque chose plus solide, plus stable. Rendre quelqu'un plus énergique, plus ferme dans son action. Rendre une action ou un état plus fort, plus durable. Nous ne sommes pas là pour vivre un instant qui va s'arrêter. Mais le jour où nous rencontrons Jésus-Christ, c'est mieux que les piles Duracell. C'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. C'est pour ça, mes amis, tout à l'heure, j'espère que je ne vous ai pas choqué, mais nous sommes ensemble, pas pour une heure et demie, chaque dimanche. Mais si Dieu nous a mis ensemble, c'est pour que nous nous préparions à passer l'éternité ensemble. Parce que c'est pour ça que Jésus est mort. il y a des personnes, on se dit, moi je passerai pas mes vacances avec. Mais Dieu, il touche souvent notre cœur, il dit, bah, tu passerais peut-être pas tes vacances avec, mais prépare-toi, tu vas passer l'éternité avec. Parce que si tu crois que tu peux pas t'entendre, et bien moi je vais te donner les moyens de t'entendre. Les moyens de comprendre. Les moyens d'accepter. Rendre quelque chose de plus solide, rendre plus énergique, rendre plus fort et plus durable. C'est ça le but d'une église, de travailler ensemble. C'est ça le programme. Nous sommes là pour durer. Nous sommes là pour être fortifiés ensemble. Acteurs. Regardez bien, on va regarder quelques moyens que l'apôtre Paul a utilisés pour affermir. Alors tout d'abord aux Thessaloniciens. Il leur dit, nous avons envoyé Timothée, notre frère collaborateur de Dieu, pour la bonne nouvelle de Christ, afin de vous affermir et de vous encourager dans l'intérêt de votre foi. Waouh ! Il a envoyé un de ses collaborateurs, un jeune, dont on remettait en question la jeunesse. Les hommes, les chrétiens, sont envoyés par Dieu pour nous encourager, pour nous affermir. Et des fois, ils vont nous dire des choses qui nous déstabilisent, des choses qu'on ne veut pas forcément entendre. Mais regardez bien, il dit, dans l'intérêt de votre foi. Un peu plus loin, au verset 13, il dit, à propos de Jésus-Christ, qu'il affermisse votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant votre Dieu et Père à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Amen. Quand ? Quel est l'objectif ? Regardez bien. Que vous soyez irréprochable dans la sainteté. Quand ? Quand Dieu viendra vous chercher. Alors là, on a un problème. Parce que d'un côté, on se dit, bon, on a le temps. Mais on ne sait pas quand. Donc, on a le temps, mais c'est tout de suite. Vous voyez le problème ? Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par grâce un encouragement éternel et une bonne espérance, vous encourage, et on a le même thème qui revient, et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. L'œuvre et la parole. Dieu nous a donné d'accomplir deux sortes d'œuvres, celles qui se témoignent et celles qui se pratiquent. Mais pour nous encourager et pour nous affermir. Au chapitre 3 de ce deuxième épître, verset 3, il dit, mais le Seigneur est digne de confiance, et regardez bien, il vous affermira. Et là, il rajoute un élément. Il dit, il vous gardera du méchant, du mauvais, du diable. Quand on est sous sa protection, mes amis, alors, le diable, lui, ne va pas rester en vacances. Mais il a dit, il vous gardera. Tu peux tous vous rappeler, monsieur Job ? Tu peux toucher à tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas le faire mourir. Une fois qu'on est en Christ, nous ne pouvons plus retourner en arrière. Nous ne pouvons plus mourir et repartir avec le diable. C'est lui qui nous garde. Personne ne les ravira de ma main. Waouh ! Est-ce qu'on a ces assurances, mes amis ? Est-ce qu'on est sûr qu'en Christ, pour ça que pour moi c'est tellement important d'être assuré de ces choses-là. On a vu nos disciples tout à l'heure, les disciples d'Emmaüs, où Jésus les a un petit peu déstabilisés. Voilà l'enseignement qu'il leur amène. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin de comprendre l'écriture. Les écritures. Alors on se dit, mais il leur a raconté quoi ? Il a marché 30 km, 20 km, 10 km ? Il a traversé la rue ? La loi, les prophètes et les psaumes. Waouh ! Imaginons qu'il ait commencé par le psaume 2, verset 7. Il leur a rappelé que Jésus était de la descendance de David. Comme promis. Psaume 8, versets 4 à 6. Psaume 110. Il est assis à la droite de Dieu. Je vous en laisse pour que vous alliez les chercher. Psaume 118, 22, 23. Ésaïe chapitre 6, chapitre qu'on chante souvent à Noël. Ésaïe 53, que vous connaissez. Ésaïe 53, le serviteur souffrant, abandonné des hommes. Chapitre 49. Chapitre 28 de ce même prophète Ésaïe, où Jésus-Christ est décrit comme étant la pierre angulaire, celle qui tient le tout. On repassera ça plus doucement, je vous le donnerai. Genèse 12, 3. Il a rattaché à David, et puis là, d'un seul coup, il leur dit, « Oui, mais ça vient aussi d'une promesse qui a été faite il y a bien longtemps. » Genèse 12, 3. Descendance d'Abraham. Waouh. Jérémie 31. Une grande prophétie laissée par Dieu. Joël chapitre 2. Un autre prophète. Versets 28 à 32. Zacharie 9. Un roi. Pas un serviteur. Un roi. Établi. Habacuc chapitre 2. Ésaïe 61. Serviteur de l'Éternel. Voici, l'Éternel m'a oint pour vous annoncer une bonne nouvelle. Oh. Deutéronome, chapitre 18. David, Abraham, Moïse. Successeur de Moïse. Dieu se choisira un successeur. Vous avez vu ce que Dieu leur a fait faire ? Un chemin en marche arrière. Ces choses-là, vous les savez. Mais je veux juste les recliquer. Waouh ! C'est ça un programme d'affermissement. C'est de revenir sur des choses que nous sommes supposés lire les uns et les autres. Mais nous avons du mal à voir comment ça s'accroche. Oh, vous dites, oula, mais Jean-Claude, il n'y a 15 passages, il n'y a que 15. Oula, on va apprendre tout ça ? J'avais fait il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne me souviens plus, un message pour nous rappeler que la Bible n'est pas une succession d'histoires avec un S. Mais la Bible est une grande histoire dont l'auteur est Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu qui a envoyé son Fils. C'est l'histoire de Jésus-Christ, de Genèse chapitre 3 jusqu'à Apocalypse chapitre 22. Dieu a choisi environ plus ou moins 40 écrivains. 40 stylos à qui il a inspiré ce qu'il fallait mettre dans le stylo. Et là, il leur a dit, vous allez raconter une histoire. Celle de mon fils. Christ. Mais commençons par les prophètes. Alors, mes amis, si j'écris toutes ces choses, c'est que nous avons un défi ensemble. Connaître cette parole, connaître cette histoire, connaître celui qui est au centre de l'histoire. Jésus. Pourquoi faire ? Pour le faire connaître. Connaître, 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 les trois C. Connaître Christ, connaître l'Écriture, connaître Christ, l'auteur, le centre, pour le faire connaître. Ce n'est pas les équipes d'évangélisation qui vont faire connaître Christ. Ce n'est pas les équipes spécialistes qui vont témoigner aux autorités célestes. Mais Dieu a choisi l'Église évangélique, le phare. Waouh ! Vous avez été sélectionné. Et vous savez quelque chose ? On reçoit tous les jours, hein, par Internet, dans nos boîtes, « Vous avez encore gagné ». Moi, je suis embêté à chaque fois, je dois téléphoner à ma banque, leur dire attention, il y a un gros pactole qui arrive, encore 5, j'ai encore gagné 50 000 euros. Vous êtes embêté, mais préparez-vous à les recevoir, on ne les reçoit jamais. Hein. Parce que pour éventuellement gagner, il faudrait jouer, et puis pour jouer, il faudrait quand même investir un petit peu dans notre entreprise. Mais il y a une chose que Dieu fait. Quand Dieu nous sélectionne, il ne dit pas si vous voulez gagner, il faut jouer. Mais il dit, moi j'ai payé. Maintenant, vous pouvez le dire au monde entier. Si vous l'acceptez, alors dites-le au monde. Parce qu'ils n'ont pas besoin de jouer. Ils n'ont pas besoin de gratter tous les matins, savoir si c'est la bonne formule. Mais ils ont cette assurance que Dieu est bien celui qui a payé le prix. On l'a chanté ensemble. Serions-nous prêts ? J'ai marqué « Sommes-nous ? » J'aurais dû changer le temps. Serions-nous prêts à connaître Christ et sa parole au point que cela transforme ma propre vie ? Pas celle du pasteur, hein ? La nôtre. Et d'être capable de l'expliquer avec confiance à d'autres, comme Dieu nous l'a demandé dans l'Évangile. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, c'est l'ordre que Dieu a donné aux missionnaires, aux évangélistes. Il l'a donné à chacun de ses disciples, chacun, vous, moi. Henri, Guy, Pierre, chacun d'entre nous. Sauf que toute notre vie, nous attendons que ce soit les autres qui le fassent. Il n'est pas bien. Allez, c'est pour chacun d'entre nous. Et le texte original, il dit tout en allant dans votre vie chrétienne, témoignez, parlez. Alors je propose, peut-être me faire couper la tête cette semaine par le conseil, je propose un centre de transformation, de disciples à chrétiens. On va remonter à l'envers. La majorité du temps, nous témoignons que nous sommes chrétiens. Moi, j'aimerais qu'on devienne des disciples. Parce que Dieu, il n'a pas dit « Allez, faites des chrétiens », mais il a dit « Allez, faites des disciples ». Dans Actes 11, 26, on trouve un certain Barnabas, envoyé par son église pour aller rencontrer ceux qui avaient entendu l'évangile, qui avaient dû fuir, d'aller voir si c'était vrai qu'il y en avait. Mais arrivé à Antioche, il a trouvé un grand nombre de personnes. Et il s'est dit, il me faut un adjoint. Alors il a été chercher un tout nouveau converti, un djihadiste converti, l'apôtre Paul. Il lui a enlevé sa kalachnikov et il lui a dit: j'ai une meilleure arme à t'offrir, la parole de Dieu. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche. Et pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Un chrétien, c'est quelqu'un qui exprime l'évangile et qui vit l'évangile. C'est pas quelqu'un qui sait. C'est quelqu'un qui exprime. Quelques années plus tard, l'apôtre Paul a parmi les gens qui l'écoutent des gens qui ne sont pas d'accord avec la parole de Dieu. Et regardez bien, il fait quelque chose. Acte 19, 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école du nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. Et regardez bien, regardez bien.
Il y a quelque chose d'extraordinaire.
Cela dura 2 ans, de sorte que tous les habitants de l'Asie, juifs et grecs, entendirent parler de Jésus. On a un défi immense. Et je place devant vous un défi immense. Et pour ça, j'ai fixé 3 ans. C'était gentil, j'ai pris la première année de Paul et les 2 années de Tyrannus. 3 années. Je propose qu'ensemble, on prenne un programme de 3 années pour que la ville de Vigneux et ses alentours entendent parler du Seigneur Jésus. Nous. C'est à nous que Dieu l'a confié. Waouh. Il était là, Jean-Claude, pourquoi il est arrivé? Parce que c'est le plan que Dieu a laissé pour ses enfants. Ensemble, Dieu veut que nous soyons affermis. Dieu nous bénit instant après instant, jour après jour, pour une chose, pour que nous le fassions connaître. Parce que c'est notre tâche, c'est pas la tâche des autres. C'est pour ça que Dieu nous a mis ensemble. La Vigneux Academy à 3 ans. C'est ouvert à tous. Tous ceux qui confessent Jésus-Christ. Quel que soit leur passé, quelle que soit leur éducation. Pour que le monde sache. L'objectif, c'est pas que eux sachent. L'objectif, c'est que Vigneux et ses alentours sachent. Entendre parler de Jésus-Christ. C'est un défi que vous voulez prendre avec moi? Vous allez me dire, mais Jean-Claude, tu ne nous laisses pas le choix. Le choix, il est devant chacun d'entre nous. Moi, je prie que quand je me retournerai, vous serez derrière. Parce que c'est pas moi qui le veux. Parce que c'est le plan que Dieu nous a laissé. L'Académie de Vigneux, elle veut que tout le monde participe, de manière orale, de manière écrite, peu importe. Nous sommes tous capables d'apprendre la parole de Dieu. Nous sommes tous capables d'établir, et nous aurons 9 étapes pour apprendre la parole de Dieu. L'histoire de Jésus en 9 étapes, à partir de janvier. Mes amis, un défi, un moment de prière. Le temps de déglutir, le temps de se poser la question, est-il devenu fou? Je partage souvent avec vous mes rêves, j'en fais pas des rêves, hein, mais que chacun d'entre nous, nous soyons transformés, afin de marcher d'une manière digne de notre vocation, au point que la ville de Vigneux et ses alentours entendent la parole de Dieu. Mission 2017. Objectif 2017. Waouh. Vous êtes heureux du défi qui est devant vous, qui est devant nous, à la gloire de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons honorer ton nom. Parce que tu es un Dieu grand, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu qui est venu nous sauver, nous. Et beaucoup l'ont confessé ce matin, c'est une grande grâce. Notre souhait ce matin, après ce temps de message, c'est de croire que cette vérité, cette grâce, tu veux la transférer aux autres aussi. Alors je te demande juste la grâce à chacun de comprendre ce qui a été dit ce matin, de comprendre ton écriture et la vocation à laquelle tu nous as tous appelés, de te faire connaître. Et que nous puissions ensemble porter ce fardeau et d'atteindre par ta parole la ville dans laquelle tu nous as placés pour briller comme une lampe, pour être le sel, pour être la colonne, et que le monde sache que tu es venu aussi pour les sauver. Au nom de Jésus. Amen.